Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cet entretien avec Jean-Christophe Bailly. Bonsoir. Alors vous êtes en concurrence sur la place de l'Hôtel de Ville. Il y a Dominique A. Donc je vais vous faire chanter, je pense.
Il vaut mieux pas.
Je ne vais pas synthétiser en quelques minutes une œuvre aussi foisonnante que celle de Jean-Christophe Bailly, hein, qui... à une cartographie qui part dans beaucoup de directions, la poésie, les écrits sur l'art, le théâtre et les livres qui, comme Le dépaysement sous-titré Voyage en France, La phrase urbaine qui était issue des promenades discontinues, émerveillées ou éreintantes à travers les villes, ou le dernier qui s'appelle Saisir, je vais vous montrer pas les épreuves, mais je ne l'ai pas encore eu moi, Saisir quatre aventures galloises. Sont des ouvrages qui est publié donc au Seuil dans la collection Fiction et Compagnie, sont des ouvrages qui posent des regards aussi érudits que sensibles sur les paysages. Du coup, comment ça se fait que vous n'êtes jamais venu aux correspondances de Manosque, vous qui voyagez partout ?
Je ne sais pas, je connais un peu la Provence quand même, mais le hasard a fait que j'étais jamais venu ici. Et puis aussi, je crois qu'on m'avait invité une fois, je ne pouvais pas venir, quoi, c'est tout, mais bon, c'est le hasard. Deux fois, on me dit, oui.
Bon. Invité plusieurs fois, mais Jean-Christophe Bailly est très très occupé. Alors comme vous n'êtes jamais venu ici, il faut vous présenter, parce qu'ici il y a des gens qui viennent tous les ans depuis 20 ans. Quelle forme il aurait l'autoportrait, si on vous demandait un autoportrait ?
Oh là là, mais pour ceux que ça intéresse, justement, en même temps que ce livre-là, sort ressort un livre qui s'appelle « Tuiles détachées » aux éditions Christian Bourgois, qui est justement une tentative d'autoportrait. C'était dans une collection que dirige Colette Fellous au Mercure de France. Mais là, ça ressort chez Bourgois et qui avait pour but de demander à des écrivains de faire leur portrait. Voilà. Donc les réponses, elles sont là-dedans. Mais évidemment, comme je le dis dans ce livre, c'est impossible de faire son autoportrait. Ça part dans tous les sens, etc. Voilà, mais disons que pour aller vite, en tant qu'écrivain en tout cas, la particularité, c'est que, par exemple, je n'écris pas de roman et que j'ai une idée de la littérature qui s'est forgée assez vite d'ailleurs, au contact notamment du romantisme allemand, pour lequel il y avait un sens à essayer de faire que les genres, le roman, le poème... le drame, l'essai, au lieu de se séparer, de se concurrencer, se chevauchent et combinent leurs effets. Et je me suis mis à croire à ça. Voilà. Et j'essaye dans ce que je fais, où domine l'essai quand même, d'intégrer, disons, des éléments de poème, des éléments même de fiction, mais même si je n'écris pas de roman.
Effectivement, c'est pas un autoportrait, mais c'est une bonne définition. Quand j'ai voulu préparer cet entretien, donc évidemment, moi, je voulais faire un plan avec trois parties, trois sous-sous-parties, trois sous-sous-sous-parties, et du coup, je vous ai appelé pour préparer ça. Et là, vous m'avez dit non, moi, je veux être surpris. Donc, ça me met la pression. Par exemple, vous me demandez si j'ai tué quelqu'un, et je vous réponds. Donc, je me suis demandé, mais voilà, vous avez commis des crimes et délits dans votre vie ?
Des délits, oui, mais pas des crimes, non. Pas des délits au plus point de vue de la légalité. Oui, bien sûr, oui. Dans ma jeunesse.
Vous élaborerez pas.
Non,
on pas quelques...
non, enfin, c'était des délits que commis. On était nombreux, quelques milliers. Voilà.
D'accord.
Il y a 50 ans, si vous voyez ce que je veux dire.
Pas du tout, pas du tout. Parce que voilà, on va évidemment parler principalement de votre dernier livre, mais un peu pour le situer, notamment dans la manière dont vous êtes saisi par l'écriture de paysages. Vous avez enseigné longtemps à l'école de c'est quoi le titre exact ? École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois. Mm-hmm. Comment est-ce que cette pratique circule dans vos ouvrages ?
Oui, il se trouve que je travaillais dans l'édition et puis j'ai perdu ce travail et Assez vite, j'ai eu un contact avec cette école qui se crée à ce moment-là. Et je me suis mis à enseigner dans cette école qui forme des ingénieurs paysagistes dans la ville de Blois. Et mon cours s'appelait « Histoire de la formation du paysage et de ses représentations ». C'était beau. Et en fait, ça m'a passionné de faire ce cours. Et donc, qui est un cours pour essayer de demander aux étudiants de regarder le monde autrement qu'avec des critères, techniciens ou surtout technocratiques, etc., pour appréhender justement le paysage. Donc ça, pleinement. Et ça correspondait évidemment pour moi à une pratique, ma pratique d'écrivain, mais en même temps, il y a eu un effet de retour, c'est-à-dire que aussi je me suis mis à regarder le paysage un petit peu différemment, notamment, disons, l'aspect scénique du paysage, le paysage qui se met en scène. Mais en fait, c'est exactement comme au théâtre. L'endroit où ça se passe, c'est souvent pas la scène elle-même. Ou pour que ça se passe sur scène, il faut qu'il y ait tout un travail fait en coulisses. Et donc, je me suis mis à regarder vraiment les coulisses du paysage, les choses qu'on montre pas ou qui se montrent pas.
Dans Saisir, à un moment, vous parlez d'un épisode... qui sont les batteurs de lune du Nivernais. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais vous dites que c'est un moment où vous essayez... ce qui vous intéresse, c'est de saisir justement l'envers des paysages.
Oui.
C'est ça que vous recherchez quand...
Pas uniquement. Ce que je pense, c'est que l'endroit, si on le regarde attentivement, longtemps, si on fait vraiment attention, il révèle déjà son envers. Hein. J'ai écrit un texte une fois, où il était plutôt question des animaux, mais qui s'appelait le visible est le caché. Voilà. Et ça, je le pense vraiment. Bon, pour les batteurs de lune, comme on disait, c'était quand j'étais petit, j'allais en vacances chez ma grand-mère dans la Nièvre. Et la Nièvre est aujourd'hui le département qui a le plus faible. La plus faible masse fiscale, donc peut-être le département le moins riche de France. Et déjà à l'époque, il était comme ça, il y a un creux, une espèce de creux dans le paysage, qui en même temps est très beau, mais avec une espèce de... On a l'impression que le ciel s'est rapproché, qu'il est plus près de la terre qu'ailleurs, dans certains endroits, des grandes fermes comme ça, des grands espaces. Et il y a un endroit, une petite ville qui s'appelle Saint-Sauge, que je traverse souvent et qui est aujourd'hui pratiquement une maison sur deux est à vendre. Et sur ce qui reste, il y en a pas mal en ruine, etc. Et c'est des pays vraiment déprimés. Et il y avait... Déjà, autrefois, quand j'étais petit, ils avaient la réputation, dans la Nièvre, d'être un peu... Ouais, on disait les batteurs de lune parce que on disait des habitants de Saint-Sauge qu'ils étaient si naïfs et innocents qu'ils allaient essayer d'attraper la lune dans les étangs. La nuit. J'évoque ça parce qu'au Pays de Galles, je suis tombé sur une photo dans un tout petit musée d'une toute petite ville du Pays de Galles. J'adore les petits musées comme ça, d'histoire locale. On trouve toujours des sortes de trésors. Et il y avait une photo qui m'a vraiment fait penser à cela. Donc il y avait un point commun entre ces paysages gallois et celui-là.
Alors, on va arriver au Pays de Galles, mais auparavant, votre père était entrepreneur. Est-ce que c'est ça qui vous a un peu appris à regarder le bâti des villes et la manière dont les paysages sont habités ?
Mais ça, j'en parle un peu dans justement le livre autobiographique que j'ai évoqué tout à l'heure. Mon père était entrepreneur en carrelage. Et c'est vrai qu'enfant, j'allais avec lui sur les chantiers. Et j'aimais énormément ça, oui. Et ça, sans doute, ça a développé en moi une sensibilité... au paysage urbain et au fait de construire et aussi à la manière d'habiter. Et d'ailleurs, je pense que même d'une certaine façon, mon intérêt pour les animaux, j'ai écrit plusieurs livres concernant la question animale, il vient aussi de cela. C'est comment d'autres que nous habitent ce monde que nous avons en partage.
Et concrètement, par exemple, pour le dernier livre, mais... Vous pouvez répondre aussi sur ceux d'avant. Comment ça se fait le passage du voyage au scriptage, de la promenade à l'écriture ? Est-ce que vous avez toujours votre carnet sur vous, dès que vous rentrez chez vous, hop, vous en saisissez ? Ça, c'est quoi le processus ?
C'est très différent, par exemple. Si c'est on peut pas dire un voyage, mais par exemple, si je viens ici hier, par exemple, dans le train, entre je suis venu de Marseille, à Isti, je trouve que je connaissais pas la ligne. Évidemment, je prends 3 notes dans mon carnet, je note le nom des gares, enfin, ça me servira ou ça me servira pas. Donc j'ai toujours le carnet, mais il y a des voyages intentionnels. Et c'est le cas des voyages du Pays de Galles, où je vais au Pays de Galles dans l'intention d'en faire quelque chose comme un livre. Et là, évidemment, le travail, il est un travail de notation constante. C'était déjà le cas pour le livre qui s'appelle « Le dépaysement ». Et là, il y a une espèce de frénésie de la notation, d'une certaine manière, mais avec une technique, une méthode qui est toujours la même, c'est-à-dire ne jamais interviewer, de jamais avoir des contacts avec les gens, et de uniquement passer par mon expérience solitaire du paysage et de regarder, sentir, voir, écouter, et puis de prendre les notes. Et l'activité de notation, elle est pour moi vraiment primordiale, quoi. C'est exactement, j'ai toujours comparé ça à la photo d'avant, c'est-à-dire la photo argentique. C'est-à-dire pour moi, écrire, c'est avant tout prendre des notes, et c'est un peu comme prendre des photos. Et après, écrire le livre, c'est développer les photos.
Mais alors comment, s'il ne s'agit pas effectivement de rencontrer tout le monde, d'interviewer tel historien local ou tel philosophe de la région, comment il se fait le parcours? Parce que dans, par exemple dans Saisir, là, dans le dernier livre, vous dites à propos du peintre Thomas Jones, sur lequel on va revenir, hein, mais vous dites que le moindre indice compte. Et donc, mais en même temps, on n'a pas non plus l'impression que c'est une investigation orientée, puisque vous dites bien aussi qu'il peut vous arriver d'aller, de rentrer dans le petit musée local que peut-être vous n'aviez pas prévu de visiter.
Oui, non seulement le petit musée local, mais aussi la station-service, le dernier petit café. Oui, bien sûr. Tous les indices comptent et tout raconte toujours quelque chose, sauf peut-être dans les lieux où il y a eu une véritable et efficace volonté d'effacement pour des raisons en général de historiques liées à des haines ou à des guerres ou des choses comme ça. Mais même là, il arrive que quelque chose revienne. Et par exemple, j'ai un souvenir que je raconte dans un autre livre, c'était en Russie. Je travaillais à l'époque dans le théâtre et je travaillais à Saint-Pétersbourg. Et un des comédiens avec qui on travaillait nous avait emmenés chez lui dans sa datcha à peu près 100 km de Saint-Pétersbourg. Et on c'est au moment où c'est très beau, c'est les lumières du mois de juin, les nuits blanches. Et on s'est promené dans la campagne. Il y avait quelque chose de vraiment très très fort qu'on sentait comme ça. Ça fait bizarre de le dire, enfin, je suis obligé de résumer, une sorte de tragédie du monde qui était là sans. Et en parlant avec cet ami, il nous a dit « Mais oui, on est sur la route de la vie. » Et la route de la vie, c'était la seule route qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, permettait, le cordon ombilical, qui permettait qu'il y ait encore des vivres, encore des armes qui arrivent dans cette ville totalement encerclée par ailleurs par les Allemands. Et j'ai été extrêmement impressionné par la façon dont le paysage, d'une certaine manière, le racontait. Mais il ne le racontait pas « Il était une fois, premièrement, deuxièmement ». C'était comme ce que j'appelle un chantonnement. Et pour moi, se promener dans le paysage, c'est essayer d'être attentif à ça. Et pour moi, le chantonnement, c'est souvent complètement le contraire des hymnes qui sont entonnés par les institutions, les officiels, etc.
Le chantonnement, c'est un terme intéressant parce qu'effectivement, on voit d'abord votre regard, mais en fait, y a le son est important. Le son produit un paysage dans plein de sens différents, à la fois la façon dont un paysage peut faire du bruit, à la façon dont il parle, mais aussi dans un terme qui revient souvent sous votre plume, c'est les résonances.
Oui, c'est ça, résonance, et puis aussi, bon, c'est à cause du mot chantonnement, ça me fait penser à un autre mot dont
c'est pour faire concurrence à Dominica.
Dont on m'a signalé que je l'utilisais beaucoup, qui est le mot buissonnement. Et par exemple, ça, je l'ai utilisé pour expliquer, tenter d'expliquer pourquoi j'écrivais pas vraiment de romans. C'est parce que dès lors que je me promène, comme je me suis promené au Pays de Galles ou comme je me promène un peu partout, aussitôt que j'en ai l'occasion, je suis saisi par ce que j'appelle le buissonnement fictionnel. C'est où que j'aille, traverse un village à la tombée de la nuit, je monte un escalier dans un immeuble, etc. Et c'est comme de lire un chapitre de roman, ou plutôt le début d'un roman. Et par jour, pour peu qu'on s'y adonne, pour peu qu'on le veuille, avoir cette forme d'attention, on rencontre je ne sais pas combien de débuts de roman. Et je suis tellement distrait, si on peut dire, par ça, que c'est ça que j'essaye de raconter plutôt que de suivre le fil d'une seule histoire. Voilà. Et il y a cette phrase que je cite tout le temps de mon ami, si je puis dire, Novalis, le romantique allemand, mort si jeune malheureusement, qui disait, c'est extraordinaire de dire ça en 1802, il dit, nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit. Et pour moi, c'est une définition même de l'expérience que j'essaye de mener.
Vous avez parlé de votre arrivée en train. Est-ce qu'il y a des moyens de transport qui sont plus adéquats à tel ou tel type de paysage ?
Oui, si on est en haute montagne, le train est peu recommandé. Mais non, c'est n'importe quoi. Enfin, à pied. Par exemple, il y a en ce moment, vous le savez, toute une littérature de randonneurs, quoi. Et bon, moi, j'ai des distances par rapport à ça. Parce que bon, on les a pas attendus pour marcher. J'ai une distance par rapport à l'éloge de la vitesse, mais après maintenant il y a la mode du ralentissement, on prend son temps. J'ai une distance. Enfin, bon, tous les moyens sont bons en fait. Et même je tiens, ça me fait plaisir de pouvoir le citer, Paul Virilio qui est mort là il y a quelque temps. On s'était disputé parce que je l'aimais beaucoup, mais il disait « Ah, le TGV, il va réduire la France à un carré de 3 heures de côté. » Et je lui ai dit « Non, c'est intéressant la façon dont le TGV traverse le paysage. Mais après, il y a des endroits où on n'a vraiment pas envie qu'il soit là, quoi. »
Et il y a d'autres endroits où on a envie qu'il soit.
Oui.
Comment est-ce que c'est... 4 aventures galloises, puisque c'est le sous-titre de votre dernier livre paru chez Fiction et Compagnie, s'inscrivent dans votre parcours d'écriture.
En général, les livres que je publie sont soit des recueils de textes, soit des textes qui sont médités, préparés pendant très très longtemps. Et là, à l'origine de ce livre... Il y a la rencontre avec ce peintre du XVIIIe siècle qui s'appelle Thomas Jones, que j'ai rencontré avant d'être professeur dans cette école. Quand je travaillais dans l'édition, je travaillais aux éditions Hazan, avec Eric Hazan, c'est lui qui dirige aujourd'hui les éditions de La Fabrique, et un ami. Et puis on était passionnés pour un certain genre de peinture. Et en travaillant avec des éditeurs anglais, on avait été mis en contact avec cette œuvre très peu connue. Et peu à peu, je me suis passionné pour cet homme. Et puis, je me suis rendu compte que ses souvenirs, ses mémoires avaient été traduits, étrangement d'ailleurs, et publiés. Et puis voilà, de fil en aiguille. Et ça, ça remonte à il y a longtemps, disons plus de 20 ans. Et puis, c'est au bout d'un moment, ça mature de telle sorte que ça donne un désir de livre. Mais parallèlement, il y a, pour ceux qui... connaissent, il y a André Dimanche qui est un éditeur marseillais qui éditait notamment des documents sonores avec qui j'avais déjà travaillé en préfaçant les émissions de radio d'Antonin Artaud. Il m'avait demandé de préfacer la version française de la pièce radiophonique de Dylan Thomas qui s'appelle Under Milkwood au bois lacté. Il y avait une version anglaise dont on va entendre un petit extrait, je crois.
Oui, mais pas maintenant.
Non, plus tard. Et puis, oui, non, mais on a ça. Et puis, non, je ne la demandais pas.
Non, mais j'ai cru que là, vous vouliez saper complètement
mes
surprises. Mais, du coup,
mais
après, on a les avoir exigés, donc je trouvais ça un peu exagéré, mais allez-y.
Mais, non, puisque vous m'avez dit que vous l'aviez, le document...
Il
y avait une version française et voilà. Puis j'avais dit oui et puis j'ai travaillé donc sur Dylan Thomas. Mais en fait, le projet a traîné en partie de ma faute, en partie parce que ça, il n'y avait pas d'issue. Voilà. Mais ça faisait 2 projets qui avaient un point de contact avec le Pays de Galles. Et puis j'ai lu le livre de Sebald qui s'appelle Austerlitz, qui n'est pas du tout un livre sur le Pays de Galles, mais dans lequel le pays, un point du Pays de Galles joue un rôle capital. Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré les photos de Robert Frank sur les... sur un mineur, Ben James, un mineur du Pays de Galles. Donc des photos prises à l'époque, à la grande époque, où il y avait encore des mines de charbon, une espèce de plénitude de la gloire et de la misère du prolétariat anglais, et c'était pareil en France d'ailleurs. Et puis ça m'a fait, j'ai dit, tiens, ben voilà, j'ai quatre histoires galloises, voilà. Et je voulais
intégrer. Mais c'est pas, vous le dites bien, un rangement par unité géographique.
Ça me faisait un moyen d'illustrer aussi ma manière, si on peut dire, puisqu'il y avait un peintre du XVIIIe siècle, deux écrivains du XXe siècle complètement différents l'un de l'autre, et puis un photographe que je trouve formidable. Donc deux fois l'image, deux fois la littérature, et puis un hasard qui font le territoire. Mais ça me donnait aussi la possibilité de réfléchir à nouveau sur ce que ça veut dire une identité territoriale. Qu'est-ce que c'est le Pays de Galles? Pourquoi c'est différent de l'Angleterre? En quoi ça lui ressemble? En quoi ça lui échappe? Etc.
Mais effectivement, peinture, récit, poésie, photographie, ces quatre manières de saisir le réel ou le paysage. Pourquoi ce terme de saisir?
Là, c'est parce qu'on m'a refusé le titre que j'avais trouvé, que j'aimais bien. C'était comme une plaque minéralogique. Ça s'appelait Wells, qui veut dire Galles en anglais. Wells x 4. Mais non, c'est pas possible. Ça.
Donc, ça fait un peu nom de voiture.
Oui, ça faisait plaque minéralogique, mais j'aimais bien ça. Et ça faisait un peu rock'n'roll aussi, bon, même. Et on m'a dit non. Donc j'ai été obligé de trouver un titre. Et je vais se trouver complètement ailleurs, et j'ai essayé de voir ce qui réunissait ces quatre aventures. Alors, sur le terme aventure, c'est le sens aventure, pas au sens les aventures périlleuses ou les aventures amoureuses, ou etc. C'est au sens où toute vie, d'une certaine manière, tout destin est une aventure. Donc c'est l'aventure de Thomas Jones, l'aventure de Dylan Thomas, etc. C'est pas mes aventures à moi du tout. Et il y a ça, donc quatre aventures galloises, et saisir, ça veut dire que j'ai essayé de voir ce qui pouvait les réunir, et c'était une volonté chez ce peintre, on va voir pourquoi peut-être, chez ce peintre du 18e, chez ces écrivains du 20e, un poète et un auteur de récits, et chez ce photographe, de saisir, d'attraper. Hein, on dit la saisir une image, se saisir de quelque chose. Voilà.
Alors on va voir, mais on ne va pas voir dans l'ordre, parce qu'effectivement, ça commence votre livre par l'aventure de Thomas Jones, mais là, Thomas Jones, dont vous allez nous expliquer en quoi c'est un peintre du plein air, mais là, on est dans la parole en plein air, donc on ne peut pas diffuser des peintures. Donc on va passer directement à l'aventure de Dylan Thomas en écoutant auparavant un extrait de ce dont vous parliez, Au Bois Lacté.
Under Milk Wood by Dylan Thomas. To begin at the beginning. It is spring, moonless night in the small town, starless and Bible black. The cobble streets silent and the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black, crow black, fishing boat bobbing sea. The houses are blind as moles, though moles see fine tonight in the snouting velvet dingles, or blind as Captain Cat, there in the muffled middle by the pump and the town clock, the shops in mourning, the welfare hall in widow's weeds, and all the people of the lulled and dumbfound town are sleeping now. Hush.
Ça dure 9 minutes, donc sinon on n'entendrait pas Jean-Christophe Bailly. Je suis obligé de m'interrompre. Alors, bon, ça va, j'ai choisi la bonne version parce qu'il y avait un enjeu là-dessus.
Oui. Non, c'est la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Richard Burton, le célèbre acteur, qui est gallois et qui est, ce que peu de gens savent, il est fils de mineur. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle de lui aussi. Je suis allé dans le village d'où il est originaire, qui a un nom bien gallois avec plusieurs Y, Pontryffiden, et qui est un village d'une tristesse exemplaire, sauf qu'ils sont extrêmement nombreux à être comme ça. Et c'est quelqu'un de très touchant et qui a dit le texte de Dylan Thomas d'une manière extraordinaire. Voilà. Juste une anecdote que je raconte dans le livre, c'est que dans une émission de télévision américaine célèbre des années 70-80, où il était interrogé, le journaliste lui dit « Mais vous avez dû être content, Richard Burton, d'échapper au monde de la mine. » Et là, c'est magnifique parce qu'on a l'impression qu'il va pratiquement casser la figure au journaliste. Et lui dit « Not at all. We, the miners, we were the aristocrats. » Et il part dans un truc. C'est un type assez formidable. Et ils avaient aussi comme point commun avec Dylan Thomas l'abus de boissons fortes.
C'est une pièce pour voix faite pour la radio, mais vous dites que ça n'a rien à voir avec une fiction radiophonique.
Non, il a travaillé très très longtemps à ce texte, Dylan Thomas, et disons que, bon, je suis obligé d'aller vite, mais il
a... Ça va, on a un peu de temps. Hein.
C'est un, oui, mais c'est un poète très précoce, Dylan Thomas. On a dit le Rimbaud de Cumduncan Drive, le nom de sa ville natale, et c'est vrai qu'il a publié des poèmes très jeune, et même l'essentiel de son œuvre poétique, c'est avant 20 ans pratiquement. Et puis après, il est devenu un narrateur qui raconte. Et sans que ce soit voulu, volontaire, il se trouve que dans cette pièce radiophonique, les deux aspects principaux de son œuvre, le poème et la narration, se rencontrent. Mais ils se rencontrent d'une façon extrêmement particulière. Ça veut dire une pièce pour voix. C'est ce qui est dit, c'est le nom qu'il donne à ça. Et il y a dans l'émission anglaise qui a été réalisée, et puis ça a été fait aux ateliers de création radiophonique à leur grande époque en français dans les années 50 aussi, il y a un grand nombre de voix, jusqu'à 50, 60. La voix principale, la voix du speaker, étant celle que vous venez d'entendre dans le timbre que lui donne Richard Burton. Et c'est un déploiement de langue, la langue anglaise évidemment en l'occurrence, qui est assez extraordinaire et qui est pour moi, depuis Joyce, pratiquement le principal relais d'une puissance vocale de l'anglais.
Et qui est quasiment à vous lire impossible à adapter sur la scène ou à l'écran.
Il y a eu des tentatives faites à l'écran, j'en ai vu deux d'ailleurs. Une médiocre et l'autre catastrophique. Et il y a eu c'est absurde en tout cas, de l'idée. Et puis je sais qu'il y a eu des tentatives théâtrales, je ne les ai pas vues, mais en principe, je ne trouve pas une bonne idée. Quoi. Justement, il a voulu, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui passe par le son. En mon avis, c'est la grande époque de la radio. Quoi. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas ça. Il y a eu une époque extraordinaire des ondes radio, quoi. Et la façon dont on écoutait la radio dans les années, pendant la guerre, dans les années 50, puis ça s'estompe au moment où la télévision devient dominante.
De l'œuvre de Dylan Thomas, vous dites qu'elle semble écrite en anglais à partir d'une langue imaginaire.
Oui, il est un poète qui est assez difficile à lire, vous voyez, même pour les Anglais. Et il y a une espèce de, comment dire, je le compare, pour être clair, je vais le comparer dans le livre, je donne cette comparaison, mais je compare sa poésie à ce que les peintres américains de l'abstraction lyrique ont essayé de faire. C'est-à-dire, au lieu de produire des images, de produire un absolu de la peinture qui ne figure plus rien, mais où les couleurs et le geste deviennent si fondamentaux. Et au fond, de faire une œuvre qui, au lieu de se stabiliser dans une image, serait perpétuellement vivante. Et c'est un peu pareil avec lui, ce qu'il a essayé de faire dans le poème avec les mots. Action writing. Voilà.
À son sujet, vous écrivez aussi « La langue est l'entrepôt de ce savoir, non pas un thésaurus, mais une sorte de service de pièces détachées, ouvert à tout vent. »
Oui, mais ça, c'est ce que je pense de la langue en général, c'est-à-dire que nous, les écrivains, oui, on est comme des... On est comme dans un service de pièces détachées. On nous apporte des mots, puis on les invente pas, les mots, mais on les nettoie et on essaye de les rendre, de les rénover, de les, voilà, un petit peu le contraire de ce que font les hommes politiques.
Et votre magasin à vous, Votre magasin à vous de pièces détachées, il ressemble à quoi? Parce que c'est pas non plus le même à chaque fois, j'imagine.
Ah, mais il n'est pas à moi, le magasin. Moi, je suis un employé. C'était ce magasin, il y a 40 000 mots en français, et puis il y a les mots de toutes les autres langues. Il est énorme, on s'y perd, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai ma blouse et je circule dedans, voilà.
Et à quelles conditions, alors, si la langue est...
Mon blouse.
À la fois ce magasin de pièces détachées et ce que vous appelez un dépôt de savoir, on peut faire pour pas en avoir un usage usufruitier?
Ben, l'usage usufruitier, c'est les gens qui se servent des mots comme d'outils préformés, préfabriqués, au lieu d'essayer, d'inventer quelque chose. Donc, bon, on voit bien comment, par exemple, une certaine manière de parler, ce qu'on appelle la langue de bois, mais c'est une expression trop vague, la langue de bois, parce qu'il y a des tas de bois. Puis en plus, c'est un peu un honneur, ce serait formidable, une langue d'acacia, une langue de chêne, une langue de saule. Mais en fait, ce qu'on a, c'est de la langue en contreplaqué. Et on voit bien ce que c'est, quoi, la langue en contreplaqué. C'est quand même le discours dominant. Et disons, pour moi, l'écrivain, quel qu'il soit, qu'il écrive alors là des romans, des poèmes, son travail, c'est quand même de, non pas de sculpter des choses ciselées, etc., mais je vous dis de travailler les mots pour qu'ils retrouvent éventuellement la plénitude de leur sens.
Je reviens à la première aventure, donc, qui est celle de Thomas Jones, dont vous avez parlé. C'est vrai que c'est un peintre, on peut dire, relativement inconnu. Hein. Quand on tape sur Google ce nom-là, vous l'avez fait, je l'ai fait après vous, on tombe sur un joueur de football américain très costaud. Pourquoi, surtout, vous vous êtes intéressé à lui?
Oh, il se trouve que Thomas, pour dire les choses vite, Thomas Jones, il vivait donc au XVIIIe siècle, et à l'époque, un peintre se devait d'avoir été en Italie. Enfin, presque tout le monde l'a fait, ça s'arrête un peu après lui. C'était la suite de la formation, disons, qu'on avait à l'école, ou dans les ateliers des maîtres. Donc lui, il a une formation à Londres, et puis il va en Italie. Et il vit à Rome, il restera 7 ans quand même, il vit à Rome un certain temps. Et puis, c'est tout un bazar, Rome, de plein de peintres, des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Russes, des Espagnols. Et puis, il y a un marché avec les grands voyageurs, surtout anglais, qui essayent d'acheter. Et puis, pour l'essentiel, ils achètent toujours la même peinture, qui est une peinture où, si possible, il y a le Vésuve. Et s'il n'y a pas le Vésuve, il y a une jolie paysanne. S'il n'y a pas une jolie paysanne, il y a un cavalier qui s'en va sur un chemin. C'est une peinture souvent de qualité, mais un peu qui a un devenir chromo, d'une certaine manière. Et avec des grands tableaux et des quantités de petits tableaux. Puis lui, il sait faire ça, mais il comprend que ça ne va pas. Et puis en même temps, il n'arrive pas à trouver sa place dans cette société-là. Et il part à Naples, où il est beaucoup plus heureux. Et puis à nouveau, il a des problèmes. Voilà. Et puis un beau jour, parce que c'est vraiment comme ça, en 1782, il se met à peindre ce qu'il voit, ce qui est devant lui. Ce que personne n'avait jamais fait à l'époque. Et ce qui est devant lui, c'est un mur en plus. Et il fait une quinzaine, pas plus, 15-20 huiles sur papier. C'est-à-dire, il n'y a même pas un désir de réaliser de grandes œuvres. C'est des huiles sur papier de petit format. Et ces huiles sur papier de petit format, si on les montre à quelqu'un qui connaît même assez bien la peinture, tout le monde se trompe à peu près de 80 ans. Tout le monde pense que ces peintures ont été faites en 1850, en 1860, que c'est un peintre qui a déjà vu Corot, qui a déjà vu Manet. Eh bien non, il fait ça tout seul dans son coin de terrasse napolitaine en 1782. Et non seulement ça, mais ensuite il rentre au Pays de Galles et il arrête de peindre. Et il reprend la ferme de ses parents, il devient fermier et il meurt dans une solitude très grande, enfin avec sa famille, mais assez désespéré, j'imagine. Et en plus de ça, ses héritiers ne savent pas très bien quoi faire de ces dessins, ces peintures, et ils les mettent dans une malle. Et la malle où il y a ces petites huiles sur papier miraculeuses, elle est réouverte en 1953 par un héritier lointain qui, heureusement, a quelques idées de ce devant quoi il se trouve. Et à ce moment-là, l'œuvre commence à être révélée et puis elle tombe dans de bonnes mains, notamment celle d'un historien d'art anglais remarquable qui a écrit le plus beau livre qui existe sur Cézanne, qui s'appelle Lawrence Going. Et ce Lawrence Gowing, il essaye de mettre en circulation les œuvres. Elles sont achetées par certains musées anglais. Et puis voilà. Mais de fil en aiguille, il n'est pas encore très connu. Et moi, je suis tombé là-dessus parce que je m'intéresse d'assez près à l'art de ce temps et à ce qu'on a appelé, au mouvement qu'on a appelé la peinture de plein air. Donc c'est les peintres qui, au lieu de rester à l'atelier ou de faire des nus ou des natures mortes, etc., ils vont dehors, ils vont sur le motif. Et c'est un mouvement qui est beaucoup aidé aussi, parce que c'est en phase avec l'apparition de l'âge industriel. D'une part, en phase parce que le paysage va changer, c'est comme s'ils en avaient le pressentiment. Ils vont se promener dans le paysage. Et en plus aussi, bizarrement, grâce à l'industrie, ils ont, avec les petits tubes en plomb dans lesquels on peut mettre des couleurs, la peinture devient beaucoup plus portative qu'elle ne l'était. Et voilà. Et ce mouvement est très passionnant. Et dans ce mouvement, il y a quelques peintres qui se signalent, dont lui.
Oui, parce que vous dites quand même qu'avec certaines des huiles de Thomas Jones, ce n'est pas tout son travail, a été inventé à la fois de manière prématurée, prémonitoire et secrète, tout l'art moderne. Enfin, une grande partie de l'art moderne.
En tout cas, c'est l'idée de l'art moderne, du moins dans telle qu'elle ressort de la filière qui passe par Manet. Et je l'ai appris depuis, je ne le savais pas, et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir su, mais j'ai vu qu'un monsieur dont, excusez-moi, le nom m'échappe à la minute, mais qui dirige le service de... qui est directeur de la photographie au MoMA à New York, a écrit un livre sur les précurseurs de la photographie avant que la photographie n'existe. Et la couverture, c'est une huile sur papier de Thomas Jones. Donc il invente un rapport à l'image qui est celui de la modernité, oui. Mais il l'invente solitairement et sans le savoir, d'une certaine manière.
Mais c'est ça, vous dites que pour l'histoire de l'art, c'est un coup pour rien.
Exactement, oui. Et ça m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup captivé, oui.
C'est étonnant, oui, cette idée que vous pensez qu'il y a beaucoup comme ça de gisements, de trésors, de coups pour rien de l'histoire de l'art.
Je ne sais pas, mais il se trouve que je m'intéresse en effet à ces... Ce n'est pas des coups pour rien, mais aussi à des très longues absences. Par exemple, j'ai écrit un livre, il y a longtemps, il y a 20 ans, sur les portraits du Fayoum, ces portraits funéraires qui étaient faits dans l'Égypte romanisée. Et il se trouve que ces portraits, ils n'ont pas été vus pendant 1800 ans, là. Puisqu'ils étaient dans les tombeaux, et on les a retrouvés à partir du moment où il y a eu la systématisation des fouilles. Et lorsqu'ils sont apparus, donc ces huiles, ces peintures sur bois, qui est incorporée dans le réseau de bandelettes de la momie, étaient extrêmement surprenants, etc. Mais c'est vrai qu'elles m'ont passionné par elles-mêmes, parce que c'est les plus anciens portraits qui aient. Il n'y a pas plus ancien comme portrait. Mais en même temps, ils n'étaient pas faits pour être vus. Ils étaient faits pour accompagner le mort dans son voyage dans l'au-delà. Et c'est vrai que ça m'a énormément intéressé. Aussi à cause de ce statut. Aussi, il y a quelque chose aussi... c'est une discussion. Alors là, je me suis intéressé à ça même de façon plus, entre guillemets, ou sans guillemets, philosophique. C'est toute la question de l'intention, quoi. Et pourquoi ça fascine un artiste, un écrivain, un art qui échapperait à l'intention, comme ça, qui...
Oui, de Thomas Jones, vous dites que ses plus belles peintures furent faites loin du tumultueux combat pour la reconnaissance, mais comme des œuvres d'usage privé, vouées d'abord à enregistrer pour eux-mêmes et pour les retrouver plus tard des moments installés rêveusement juste au bord de l'oubli. Est-ce qu'on peut prendre ça aussi comme une mise en abîme de votre travail ?
Ben oui et non. Enfin, j'ai simplement que c'est quand même quelqu'un qui a vécu il y a plus de 200 ans, 240 maintenant, 250 ans. Donc c'est loin quand même. Et c'est assez formidable d'imaginer ce gars. C'est plus facile aussi quand on lit ses mémoires parce que c'est très concret. On le voit dans sa cuisine. Il sort sur sa terrasse. Il en a un peu marre de tout, puis il se dit « Hop, j'y vais ». Et il peint ça, exactement un peu comme on prendrait une photo. Oui. Et donc, on a un contact avec lui qui est... et c'est vrai que quelque chose de notre modernité se met à exister avec des gens comme ça. Il est à des années-lumière de ce qui se passe dans un atelier comme celui d'Ingres, par exemple. Oula, bon...
Hein. De Thomas Jones et d'un autre peintre, vous dites qu'il est loin d'être correctement évalué. Qu'est-ce que c'est une évaluation correcte en art ?
C'est ce qui rend justice. Ce qui rend justice à un travail, à une innovation. Et il y a quantité d'artistes, quantité d'écrivains qui sont oubliés, négligés, enfin, c'est rare, oui. Et il y en a beaucoup de surévalués, oui. Oui.
Encore plus.
Oui.
Mais ça, quoi, il n'y a que la postérité qui peut le dire.
Enfin, mais même la postérité, comme vous le savez, elle se trompe aussi. Par exemple, pour la postérité, Vermeer, c'est un peintre récent. Aujourd'hui, il y a une énorme popularité de l'art avant l'art, de l'art préhistorique. L'art préhistorique, c'est une invention de la fin du 19e siècle. Pendant des siècles et des siècles, il n'a pas existé. Il n'existait pas dans la conscience des historiens. Donc on peut imaginer qu'il y a forcément, heureusement d'ailleurs, des peintres qui sont totalement négligés. Pas tant que ça, je pense, quand même. C'est assez travaillé. Ils travaillent beaucoup, les historiens d'art.
Vous pensez qu'il y a vraiment
des
génies qu'on a complètement laissés de côté, sans les voir ?
Non, je ne pense pas ça, non. Non, il n'y en a pas.
Ou alors dans quelques malles du Pays de Galles.
Oui, peut-être qu'il y a une malle.
La troisième de vos aventures galloises, c'est celle de Sebald et de Austerlitz. Sebald, c'est un écrivain sur lequel vous avez déjà écrit en parlant notamment d'écriture argentique. Tout à l'heure, vous nous disiez, moi je me promène un peu comme je prendrais des photos, je prends des notes. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer ce que c'est que l'écriture argentique et en quoi Sebald en est un représentant ?
Oui, l'écriture argentique comme telle, j'en ferai pas une catégorie dans laquelle devrait entrer tel ou tel, mais j'avais écrit un essai sur Sebald où je faisais cette métaphore d'une certaine manière. Et pour ceux qui ne le connaissent pas bien, Sebald, c'est un écrivain allemand qui, compte tenu du passé de son pays, il a refusé de vivre dans son pays et il a vécu toute sa vie comme professeur en Angleterre. Et il s'est mis à écrire, pas jeune homme, assez, pas tardivement non plus, mais enfin pas tout de suite. Et il a publié des récits qui sont pour l'essentiel des récits de promenades, de voyages, et qui sont presque toujours des récits sur les traces de. Alors ça peut être les traces d'un voyage fait par Kafka, ça peut être des traces, par exemple, il y a un très beau texte sur Stendhal, mais très souvent aussi, ce sont des traces liées au XXe siècle et liées à l'histoire dramatique du XXe siècle, donc notamment à la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les horreurs qu'elle a occasionnées. Et Austerlitz est l'un de ses livres. À la différence des autres, il y a un effet monographique, c'est un seul personnage qui s'appelle Jacques Austerlitz, qui est, disons, le héros ou le fil continu de ce livre. Et c'est l'un des la base du récit, qui est un récit imaginaire. Alors, c'est très compliqué, parce que Sebald, c'est une valse hésitation permanente entre un récit qui serait, disons, réel et une fiction. Et il a une production d'images, d'illustrations photographiques qui est très troublante, puisque dans quelque chose qui est malgré tout à la fin une fiction, il produit des documents, y compris dans ce livre sur Austerlitz, il donne la photo d'Austerlitz enfant. Donc c'est forcément, enfin c'est très très troublant, très très troublant. Et donc le lecteur devient lui aussi une sorte d'enquêteur qui accompagne l'enquêteur. L'enquêteur Sebald qui lui-même accompagne l'enquêteur Austerlitz. Il y a un effet comme ça de mise en abîme et c'est extrêmement, extrêmement passionnant. Mais ce Jacques Austerlitz, son histoire, c'est une histoire qui a été partagée par quelques milliers d'enfants. Il y a eu un programme en 1939 en Angleterre pour sauver des petits juifs de ce qui allait se passer. Comme quoi le pressentiment était quand même assez fort. Et une dizaine de milliers d'enfants ont fait partie d'un programme qui s'appelait le Kinder Transport et ont été évacués de Prague, surtout de Prague, de Pologne, de différents endroits de l'Europe centrale et d'Allemagne, et amenés en Angleterre. C'est quelque chose qui est relativement connu en Angleterre, très peu en dehors de l'Angleterre. Il y a une statue avec des petits enfants qui viennent d'arriver avec leurs valises, qui sont tout ébahis, un petit groupe d'enfants en bronze, dans la gare de Londres ou celle où arrive aujourd'hui le comment il s'appelle l'Eurostar. Et il y a eu plusieurs récits qui ont été faits. Mais lui, il s'est emparé d'une histoire. Il semble qu'il ait mélangé plusieurs histoires. Et Austerlitz, c'est un petit garçon qui a été évacué de Prague étant tout petit et qui s'est retrouvé placé dans la famille d'un pasteur au Pays de Galles. Alors c'est en partie imaginaire, sauf que tous les lieux sont donnés. Les lieux où il a habité, au bord de tel lac, sur telle montagne, le lieu où il allait en vacances grâce à un camarade qu'il a rencontré dans un collège, dans l'internat d'un collège, puis après les adresses à Londres, etc. Et donc là, j'ai été sur les pas donc de Austerlitz, donc sur les pas de Sebald, et notamment dans cette station balnéaire de l'ouest de la côte ouest du Pays de Galles, qui s'appelle Barmouth, qui n'est pas un nom gallois, mais un nom anglais, et qui est le seul épisode heureux, mais même très heureux, du récit. Et parce que c'est raconté de telle manière dans le livre que, enfin, en tout cas pour moi, j'ai éprouvé le besoin, oui, pas le désir, d'aller immédiatement voir sur place.
Buvez un peu d'eau. Vous allez sur place, mais vous commencez par la visite d'une caméra obscura, et dont j'ai découvert que c'était une des plus grandes d'Europe.
Mais... Oui, parce que je groupais les motifs, donc je remontais de chez Dylan Thomas à Swansea pour aller à, et puis dans l'autre endroit où il avait sa maison, où il a eu une maison, je remontais vers Barmouth, et là il y a une ville dont le nom est tel, parce que le Pays de Galles est connu pour battre les records d'imprononçabilité, la langue galloise, et là il y a une ville relativement grande, plus une belle station balnéaire, 1900, ça peut avoir un charme, qui s'appelle Aberystwyth, avec deux Y, là aussi. Et je me suis arrêté là, et je ne le savais absolument pas, mais dans cette ville, qui est une belle courbe comme ça, avec des maisons 1900, et puis il y a un funiculaire qui monte à une espèce de colline pelée, et en haut de cette colline pelée, il y a la plus grande caméra obscura du monde, c'est ce qu'il dit. Mais ce n'est pas annoncé triomphalement, c'est comme ça, un peu minable, comme une attraction foraine placée sur une petite montagne au bord de la mer. Tout est un peu, un peu à l'abandon, un peu, c'est un pays pauvre, le Pays de Galles. Même une station balnéaire qui a eu sans doute un certain succès en 1900, elle est un peu... Et il y a une beauté de ça, qui porte la trace et la mélancolie. Et cette caméra obscura, elle fonctionne très très bien. On rentre dedans moyennant une somme modique. Et là, on est dans la caméra obscura et donc on voit le port qui est en bas, à disons un kilomètre à peu près, se refléter dans un miroir qui est relayé par une lentille. C'est un système optique au fond très simple. Et il y a cet effet incroyable que produisent les caméras obscura, qui est que ce qu'on voit dans la caméra obscura, c'est le monde vrai. C'est en direct, c'est en temps réel, comme on dit. Et ce temps réel devient totalement irréel. Et bien que ce ne soit pas ralenti, on a une suprême impression de ralenti. Et bien que ce soit réel, on a une impression totale d'être en train de rêver. Et c'est extrêmement, extrêmement troublant, extrêmement beau. Et ça représente aussi un absolu, je crois, de ce qu'a été voulu dans l'image par l'image, qu'il s'agisse de l'image peinte ou de l'image photographiée. Et là aussi, on est devant quelque chose d'extraordinaire parce que, justement, ce n'est pas vraiment intentionnel, c'est une espèce d'attraction foraine. Et brusquement, on est dans quelque chose qu'aucun cinéaste a réussi à faire, quoi.
Je fais une incise par rapport à ce que vous venez de dire sur les records d'imprononçabilité, mot lui-même pas facile à prononcer. Vous prenez un certain plaisir dans tous vos textes à citer des noms, à donner tous ces noms. Effectivement, est-ce que c'est ce côté imprononçable qui vous a aussi attiré dans vos aventures galloises ?
Non, pas du tout, mais je, où que j'aille d'ailleurs, que je la comprenne un peu, beaucoup ou pas du tout, la langue qui est parlée sur place fait évidemment totalement partie du paysage et de l'émotion du paysage. par exemple, quand j'étais en Russie, je parle très pas le russe, j'avais quelques mots pour collaborer au théâtre où on transitait par l'anglais ou par des traducteurs. Mais le son de la langue, où qu'on aille, il fait intégralement partie de l'existence, des choses. Les choses ont été nommées comme ça. Et justement, là, il y a toute... oui, je m'en prends souvent. J'aime beaucoup Mallarmé, hein, c'est pas, j'ai rien contre lui, mais il a dit cette chose que je ne suis pas du tout d'accord avec. Les langues imparfaites en cela que plusieurs. Et là, on est dans la vieille tradition chrétienne de la malédiction de Babel qui aurait puni les hommes en les divisant en langages. Chance, imaginez qu'on parle tous la même langue, ça serait la guerre civile totale et permanente. Au moins, par moment, on ne se comprend pas. Et surtout, on a la chance, grâce à l'existence de toutes ces langues, et je dis bien toutes ces langues, les plus petites comme les plus communément parlées, on a la chance d'avoir les problèmes de traduction. Et ce que les problèmes de traduction nous ce qu'ils renseignent en nous, c'est qu'aucun mot n'a un rapport d'étiquette qu'on colle sur une chose comme on colle un prix sur une marchandise. Le mot, il est une tentative, et il est une tentative de nommer qui a été faite par un groupement humain plus ou moins étendu, et c'est le résultat d'un frottement millénaire d'une communauté humaine à son environnement. Et la langue, elle est le fruit, l'effritement comme ça, le plus vivant, le plus formidable de la manière qu'ont eu les hommes d'habiter leur coin de planète. Après, aujourd'hui, la mondialisation, elle a commencé aussi par le brassage des langues, etc. Mais je crois que c'est fondamental, où qu'on aille, d'essayer d'entendre tout ce qui se dit, que ça se dise dans la langue la plus originaire ou dans la langue la plus vernaculaire ou dans la langue la plus mondialisée, il y a toujours quelque chose d'une vérité de ça. Et on le voit bien aujourd'hui dans la façon dont le français est travaillé par des jeunes qui se reconnaissent pas forcément dans la langue que moi j'écris, etc. Et je pense que la pire des choses, ce serait pour le langage, la pire des choses, c'est d'établir des hiérarchies entre telle manière d'écrire, telle manière de parler, etc. Et un écrivain, à mon avis, il est simplement celui qui se met à disposition de la plus grande quantité de langage possible.
La quatrième, ça aurait pu faire une bonne conclusion. J'ai encore quelques questions, mais on aurait pu finir là-dessus. Il nous reste quand même quelques minutes, donc on va en profiter. Et parler quand même de votre quatrième et dernière aventure galloise qui ne porte pas de nom propre, contrairement à celle de Thomas Jones, de Dylan Thomas et de Zebald. C'est Aventure au pays du charbon, mais pourtant on suit les pas d'un célèbre photographe, Robert Frank.
Oui, mais Robert Frank, il y a eu, pas la rétrospective, on en est loin, mais il y a eu une belle exposition à Arles cet été. Et c'est un photographe très connu, en effet. Et là, je n'ai pas intitulé Aventure de Robert Frank, parce que je sais qu'il est, je ne le connais pas personnellement, mais je crois que ça ne lui aurait pas plu. Et parce qu'en fait, c'est plutôt l'aventure de l'homme qu'il photographie, qui était, et c'est très étrange parce que ce n'est pas du tout constant, c'est même la seule fois où il a fait ça, Robert Frank. C'est des photos qu'il a prises au début des années 50. Et Robert Frank, c'est un Suisse. Et maintenant, il est américain, il est parti aux États-Unis. Et en route vers les États-Unis, il a fait quelques reportages extraordinaires à Paris, à Londres, et celui-là au Pays de Galles. Et celui au Pays de Galles, il concerne un mineur qui s'appelle Ben James, et qu'il a suivi du soir au matin. Et c'est l'époque de la mine. C'était d'ailleurs en France, c'était pareil. C'est juste avant que les douches soient obligatoires à la sortie du puits. Et donc les mineurs rentraient chez eux couverts de charbon, etc. Et il y a une force de ces gens qui vivent évidemment avec des conditions de travail et des conditions hygiéniques extrêmement souvent terribles, mais en même temps avec la fierté de ce métier-là. Et quand on va au Pays de Galles aujourd'hui, c'est... Bon, pour moi, en tout cas, c'était impensable. Bon, en plus, je m'intéresse à ça, j'ai essayé d'en parler déjà à propos de Saint-Étienne, dans le livre sur la France, etc. Bon, il y a un truc des gens de mon âge aussi, le charbon, quand, dans les années 50, la richesse, c'était le charbon. On allait chercher du charbon à la cave, etc. Puis c'est une matière très... Enfin, il y aurait des livres entiers à faire sur le charbon, donc ça m'intéresse. Et au Pays de Galles, c'était pas pensable que j'aille pas voir les vallées. Il y avait 250 000 mineurs, il y a zéro mineur aujourd'hui, et il y a une dame qui est la clé pour qu'on comprenne ça, elle s'appelle Margaret Thatcher, et c'est une clé d'explication aussi de ce qu'est devenu notre monde aujourd'hui. Et quand on traverse ces vallées, où une maison sur deux est abandonnée ou à vendre, avec toutes ces maisons toutes semblables, etc., c'est pas qu'on ait envie d'habiter là, bien sûr, mais on est dans un monde qui a été vivant. Après, c'était pollué, c'était tout ce que vous voulez. Et ce monde qui a été vivant ne l'est plus. Et on a là, justement, envie de rendre justice. Voilà.
Oui, parce que le Pays de Galles, vous le dites, c'est pas le seul endroit d'Europe où les mines ont fermé, mais c'est peut-être l'endroit où ça se voit le plus.
Ouais, c'est extrêmement spectaculaire aussi à cause de la morphologie du pays, quoi, puisque c'est les vallées, ce sont des vallées assez encaissées, qui sur un éventail, ça ferait comme un éventail, qui irait de Cardiff à Swansea, en fait, pour ceux qui connaissent un peu. Et c'est des vallées qui montent, des vallées assez encaissées, qui montent, puis après, derrière, c'est des quasi-montagnes, enfin, pour les îles britanniques. Ça monte à 800, 900 mètres. Mais c'est des endroits très beaux, d'ailleurs, très sauvages. Entre la mer, où il y a des usines, à Swansea, ou près de Swansea, il y a Port Talbot avec énorme encore industrie sidérurgique, ça fume encore. Mais on monte et il y a ces endroits. Et puis il y a c'est très très bouleversant parce qu'il y a des petits musées de la mine. Alors c'est comme en France d'ailleurs, j'en ai visité plusieurs en France. Il y a toujours des témoignages très très humbles de cette vie, mais avec aussi la fierté, quoi, une fierté d'avoir été les héros d'une certaine manière. De l'âge industriel.
En quoi, selon votre formule, je vous cite, les images de Robert Frank travaillent constamment la marche glissante qui va de la description à la narration et de celle-ci à la fiction. Et question subsidiaire, est-ce que ça peut s'appliquer à votre travail, cette formule ?
Ben, si vous voulez, j'en ai parlé souvent, ça, pour moi, de l'importance de l'image. Là, je vous parlais à l'instant du langage, mais justement, les images, par définition, sont muettes. Hein ? Et je cite tout le temps aussi la phrase de Nicolas Poussin, magnifique, dans ses lettres, « Moi, avec fierté, hein, moi qui fais profession des choses muettes. » Et c'est vrai que toute image qui se revendique comme image et qui a cherché par l'image à produire un sens, elle ne passe pas par le langage. Et donc l'image, quand on est confronté à elle, elle crée une espèce de césure, hein. Brusquement, hein, oui. Et pour moi, justement, cette césure que crée l'image, plus elle est importante, plus elle est violente, plus je suis interrompu dans ma phrase intérieure, plus je considère que ça peut éventuellement me donner des moyens de raffiner ou d'affiner cette phrase. Lui, comme photographe, il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est vrai que qu'il s'agisse de Walker Evans, de lui ou d'autres d'ailleurs, et je travaille beaucoup avec des photographes aujourd'hui, c'est vrai que la photo a cette chose extraordinaire qui a été extrêmement bien soulignée justement par Denis Roche, qui est le poète, qui était aussi photographe. Il a beaucoup insisté là-dessus sur ses écrits sur la photographie, c'est que la photo, elle est encore plus silencieuse que la peinture. Bon, bien sûr qu'il y a des peintres et des photographes bavards, mais cela, ils ne m'intéressent pas. Mais elle est beaucoup plus silencieuse que la peinture. Et aussi, malgré tout, et c'est presque, ça a l'air d'une trivialité de le dire, mais l'instantané reste un mystère. C'est-à-dire que jamais de notre vie, on ne voit ce qu'une photo montre. Le temps arrêté, comme ça, au 1 millième de seconde, ou même au 1/30e, ce n'est pas une expérience que l'œil peut faire. L'œil, il est dans un film continu de battements de cils, d'hésitations, de recherches, qu'on soit homme ou animal. Mais l'image arrêtée, fixe de la photographie, cette césure est extraordinaire. Et il y a l'art des photographes, c'est justement, en disant le moins possible, de produire le plus de sens possible. Et donc, même si une image ne raconte rien, elle ne peut pas raconter une image puisqu'elle est fixe. Ben, je ne parle pas du cinéma, là. L'image, elle raconte rien puisqu'elle est fixe, mais justement, elle saisit une quantité de sens absolument incroyable. Et c'est vrai, par exemple, il y a une photo, elle n'est pas dans le livre, mais on voit Ben James tout noir. Il est de retour de la mine, et puis il est chez lui, Et il boit une tasse. Et la tasse, elle est en porcelaine blanche. Et ça raconte même quelque chose sur l'existence de la photo, le noir et le blanc, le charbon, la porcelaine, enfin tout. Donc, et cette petite photo, ce portrait, quoi, il raconte l'âge industriel, il raconte la misère, il raconte le luxe via brusquement la tasse. C'est extraordinaire la puissance que peut avoir une image.
19h sonne, donc je vous pose une dernière question. Le sens du son de Jean-Christophe Bailly, vous avez remarqué. Le projet est assez ancien. Enfin, les premières notes, en tout cas, que vous avez prises sur le Pays de Galles sont assez anciennes, mais néanmoins, publié aujourd'hui un livre sur quatre aventures galloises en pleine crise du Brexit, forcément, le projet devient un peu de comprendre ce qui fait un pays, ce qui fait une nation, ce qui fait un territoire, ce qui fait une communauté. Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Parce que je pense qu'il y en a à Bruxelles ou à Londres qui seraient intéressés.
Ah non, d'abord, ceux qui sont à Bruxelles ou à Londres, je ne crois pas qu'ils lisent aucun livre. Je ne crois pas qu'ils lisent de livres. Et s'ils en lisent, il y a assez peu de chances qu'ils tombent sur le mien.
Si je vous le pose autrement, vous dites quand même un moment, le Pays de Galles existe bel et bien. Mais qu'est-ce qu'il fait exister ?
Ah ben ça, c'est très complexe, justement. Mais c'est, par exemple, si on garde la langue, le gallois n'est pas beaucoup plus parlé que le breton en Bretagne. Mais la présence du breton en Bretagne, on ne peut pas l'éliminer comme ça. Et elle est plus intéressante que le fait de dédoubler les panneaux de signalisation. Pareil, au Pays de Galles, tous les panneaux sont dédoublés, etc. Mais il y a une présence dans la toponymie, des noms, etc. Et il y a quelque chose de Welsh, de gallois. Et lui-même, Dylan Thomas, qui est poète gallois, il disait « I'm a Welshman ». Et y compris boire un coup de trop, nettement plus qu'un seul d'ailleurs. Mais ça faisait partie de cette Welshitude. Mais en même temps, il refusait toute identification nationalisante ou au sol, etc. Et donc, forcément, dans mon livre, il y a une réflexion là-dessus, sur ce que ça veut dire. Comme quoi, si j'avais été en Écosse, ça aurait été une autre différence. Voilà. Mais d'essayer de comprendre en quoi c'est quand même aussi anglais. Ce que peut-être un Gallois n'est pas prêt à entendre, enfin tout ça. Mais bon, c'est une réflexion qui est très difficile, mais et juste sur l'identité, quoi. C'est un mot, on ne peut plus l'employer aujourd'hui pratiquement, mais avoir une identité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'on n'existe pas d'une certaine manière. Mais avoir une identité, c'est avoir une différence. C'est pas avoir, c'est avoir aucune espèce de suprématie, mais une identité, elle est forcément composite, elle est forcément non seulement composite au départ, mais elle est une composition qui se fait en permanence. Et la composition Pays de Galles, c'est quelque chose qui est différente selon chaque endroit du Pays de Galles où on est, selon chaque Gallois, etc. Et évidemment. Mais il y a quand même, et c'est bon, ça justifie aussi le livre d'une certaine manière, qu'il est une espèce d'unité territoriale. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Bailly. On a... éventuellement 5 minutes pour poser une ou deux questions avant d'aller boire des verres en pensant à Dylan Thomas. Et éventuellement reposer des questions, mais autour d'un verre. Madame.
Ça va ? Cher Jean-Christophe Bailly, je suis là.
Là.
La singularité de la manière, de ta manière, je dirais, pour nous lecteurs, c'est peut-être de ne pas écrire sur ce que tu présentes là, mais d'écrire dedans. D'ailleurs, je crois que tu as une réflexion sur le fait d'écrire sur ou de... Voilà. Est-ce...
Oui, enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire... Bon, par exemple, ça, c'est un livre qui n'est pas plus autobiographique que le fait que j'ai voyagé là-bas, etc. Mais puis, je sais pas, je pensais, parce qu'à cause de la transition avec Boire des Verres, justement, à un moment, je fais cette réflexion. Je suis en train d'écrire sur ces balles. Puis je travaille sur ces balles et je découvre que ces balles ne buvaient jamais d'alcool. Et bien que ce soit un écrivain que j'admire, j'ai toujours eu la sensation que je n'aurais pas été son copain. Et j'ai la réponse. Et d'une certaine, c'est une sensation étrange qui crée une petite distance, pas avec ses écrits, mais avec lui. Et puis, évidemment, Dylan Thomas, on est à l'opposé. Dylan Thomas, il est mort à 39 ans, Insult to the Brain, il a explosé à New York, tellement il était alcoolique. Et puis, brusquement, je me rends compte, moi, qu'en fait, je suis un peu divisé en deux. Parce que j'ai eu, pendant longtemps, de longues années, une pratique plus proche de vie et d'hygiène, plus proche de celle de Dylan Thomas que de celle de Sebald, même si aujourd'hui, je suis calmé. Mais me dit, tiens, finalement, je suis en train de... Pourquoi je m'intéresse tellement à ces deux écrivains aussi ? Peut-être ils représentent deux possibilités qui m'ont intéressé toutes les deux. Et donc sur l'alcool, par exemple, je peux pas détacher ce que je dis de Dylan Thomas et de l'alcool d'une expérience que j'ai eue de ça, seul ou avec des amis qui sont morts d'ailleurs, certains d'entre eux comme Dylan Thomas. Et après dedans, je sais pas. Mais c'est non, ce que pour moi très impensable, c'est d'écrire sur comme ça, comme si je savais quoi. Justement, on ne sait pas. Donc on est forcément, à mon avis, on est toujours en train d'apprendre quoi, apprenti. Voilà.
Vous avez dit tout à l'heure que le langage, la langue, était constitutive du paysage. Hein. Vous parliez du russe, vous parliez du Pays de Galles. Et un petit peu avant, au tout début, vous avez dit que lorsque vous traversiez des paysages, vous preniez des notes, mais que jamais vous n'intervieviez les gens. Oui. Comment vous pouvez expliquer cette contradiction ?
La langue, déjà, il y a tout ce qui est écrit. Dans le paysage urbain, c'est un texte, métaphoriquement, mais réellement aussi, il y a quantité de choses qu'on peut lire, écrire, les signalisations, les noms des boutiques, les noms des gens, puis je regarde tout, donc je regarde des boîtes aux lettres, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, et puis j'écoute énormément. Si on est dans un café, dans un restaurant, je ne vais pas pique-niquer à un endroit où je ne vais pas entendre personne. Donc j'entends cette langue, j'entends les manières de parler. Et aussi, il y a une espèce de rumeur. Ça m'a frappé dans des pays. C'est plus frappant peut-être dans des pays beaucoup plus lointains. Par exemple, j'ai eu la chance de travailler en 2006 en Iran. Et l'Iran, c'est un pays qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas... Écoutez parler persan. Le persan, c'est une langue absolument... C'est la langue des mille et une nuits. Et par moment, je me souviens de ça. D'ailleurs, j'étais à Paris. Et c'est rare, justement, que je rompe cette loi du silence. Mais il y avait deux dames dans l'autobus. Elles parlaient. Et je les ai interrompues. Je dis, excusez-moi, mesdames, quelle langue parlez-vous ? Et elles m'ont dit persan. Puis c'était comme un petit miracle, comme ça, comme des perles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde ne parle pas le persan comme ça. Hein. Amani Déjab, c'était pas très perlé son langage. Voilà. De même que pour toute langue. Mais chaque langue a une possibilité de miracle vocal, de miracle sonore. Et ça aide énormément à comprendre quelque chose du paysage. Parce que le paysage, il a été nommé dans cette langue. Évidemment, le paysage, il émeut encore plus que Nicolas Poussin ou qu'un photographe. Mais en même temps, non, il ne l'est pas vraiment. Une datcha, c'est une datcha. Et même des mots m'étaient intéressés justement au mot papillon. Il est marrant parce que dans aucune langue européenne, même aux langues européennes sont souvent très proches, soleil, sol, soleil. Mais le papillon, il existe, il se traduit toujours autrement. Mariposa, butterfly, schmetterling. J'avais fait les recherches, j'avais été chercher le papillon en mandingue, etc. C'est invraisemblable. Le papillon, pourtant... Et donc là, on voit bien le langage. Papillon, c'est le papillon, d'accord. Puis il y a des milliers de papillons. Et si, l'identifiant papillon, il vole très bien. Mais pourquoi le son ? Est-ce qu'un schmetterling, c'est vraiment un mariposa ? Oui, mais non. Et pourquoi c'est une mouche à beurre chez les Anglais ? Et Et voilà. Et donc, le langage papillonne autour du sens qu'il incarne. Et entendre ce froissement d'ailes de chaque langue, ça dit quelque chose. Voilà.
On va finir sur ce battement d'ailes du langage. Merci Jean-Christophe Bailly. Merci à la régie, merci à vous. Et même si Jean-Christophe Bailly s'est donc assagi, vous pouvez continuer des questions autour d'un verre. Merci.